Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro des Créateurs d'Avenir, l'émission des jeunes qui entreprennent leur vie. Chaque semaine, nous allons vous faire découvrir le parcours de jeunes entrepreneurs, vous éclairer sur la création et la gestion d'entreprise et vous faire rêver aussi en revenant sur les success stories d'entrepreneurs mythiques. Mais avant cela, une petite présentation. Je suis Tanguy Pinson, 19 ans, étudiant en école de commerce et j'ai créé GTP, une structure officiant le commerce en ligne, notamment sous la marque Flare. Et comme pour chaque émission, je suis accompagné de Guillaume Artus, bien entendu, lui aussi entrepreneur, qui a lancé Réussible, une boîte qui fait de la préparation au concours d'école de commerce. Un domaine qu'il connaît bien, lui aussi est étudiant en école de commerce, mais contrairement à moi, toujours au premier rang dans les amphis de droit ou de gestion. Et c'est donc lui qui vous éclairera sur la création et sur la gestion d'entreprise. Bonjour Guillaume.
Bonjour Tony.
Vous aurez tout le loisir d'en apprendre un peu plus sur nous et sur nos business au cours de cette saison. Mais il est temps de vous présenter l'entrepreneur qui nous accompagne cette semaine. Il s'agit de Frédéric Munier, cofondateur de Fago Shoes, une marque tendance et écologique durant ses études à l'ISTEC, une école de commerce parisienne. Bonjour Frédéric.
Bonjour Tanguy.
Alors, avant de nous raconter ton histoire, on va peut-être aborder le sommaire du jour. Donc, bien entendu, en première partie, tu nous diras tout de cette belle aventure qu'est Fago Shoes. Puis, Guillaume nous éclairera sur la base de la création et de la gestion d'entreprise, avec cette semaine les différentes structures juridiques possibles pour avoir un premier aperçu des différences entre la SARL, l'auto-entrepreneur, le ERL et tout ça. Et pour la partie gestion, on va découvrir les bases d'un business plan réussi. Et puis enfin, pour conclure, on va vous raconter l'histoire d'un grand concurrent, d'un énorme concurrent de Fago Shoes, même le 63e homme le plus riche du monde selon Forbes, créateur du géant du sportswear Nike. Je veux parler de Phil Knight. Les Créateurs d'Avenir, saison 1, épisode 1, ça commence maintenant. Alors, Frédéric, tu as créé Fago Shoes. Tu vas donc nous présenter tout ça. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu ton parcours ?
Ben voilà, Frédéric Munier, maintenant 24 ans, puisque ça fait maintenant 2 ans que je suis à la tête de Fago Shoes avec mon associé Nicolas. Mon parcours, j'ai fait une école de commerce que j'ai terminée la semaine dernière. Donc pendant ces 2 années, j'étais à la fois à l'école, à la fois à gérer cette entreprise. J'avais eu la chance d'être très mobile. J'avais eu un parcours très mobile qui, je pense, m'a apporté un peu l'esprit d'adaptation où j'avais déménagé beaucoup quand j'étais jeune. Et puis, depuis 5 ans, j'étais à l'ISTEC à Paris, une école de commerce post-bac où j'avais pas mal profité de cette expérience d'école de commerce pour m'intégrer dans des associations dont le 4L Trophy, le B2E, la course croisière EDEC qui ont rythmé un peu mes années étudiantes.
Le B2E, je le disais même en antenne, président du B2E.
Voilà, j'ai été président du B2E de l'ISTEC en 2007, 2006. 2007 peut-être, on vieillit vite, et voilà, et c'est un peu à la fin de cette expérience au B2E qu'on s'est rassemblé avec Nicolas, mon associé, pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant. Quand on a été président d'une association comme ça, ça donne un peu le punch, l'habitude de travailler en dehors des cours sur des projets, et du coup on partageait pas mal cette passion de l'entrepreneuriat, et c'est de là que nous est venue l'idée de Fago Shoes.
D'accord, enfin... Président de B2E, tu aurais pu aussi penser dans l'événementiel, organiser des petites soirées, non ? Parce que je suppose que c'était un peu ton quotidien à une époque, non ?
Voilà, bah alors je crois qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Finalement, quand on est président de B2E, c'est quand même beaucoup d'organisation et pour quelques événements, mais au final, on touche à une douzaine d'événements dans l'année seulement, à peu près. Et c'est beaucoup d'organisation au préalable et on se rend compte que l'événementiel, quoi. Moi, je me sentais pas trop dans l'événementiel de la nuit parisienne, qui est pas non plus le milieu le plus adéquate, et j'y avais réfléchi à un moment en effet.
Mais en tout cas, président de B2E ou en tout cas impliqué dans une association scolaire, on est d'accord que ça reste une expérience très intéressante,
très enrichissante, ouais.
que l'on peut pousser tout le monde à faire. On a posé un peu les bases. Et donc maintenant, tu vas nous parler de comment cette idée de Fago Shoes est venue. On a bien compris que tu avais une envie d'entreprendre, une envie de mener des projets différent que la gestion d'une association, mais pourquoi lancer des chaussures ? Parce que c'est pas forcément le premier truc qui me vient à l'esprit quand on me dit je vais créer un business, non ?
Ben voilà, on était tous les deux attachés à la mode, on voyait tous nos potes avaient les mêmes paires de pompes, et du coup on s'est dit bon, on va créer des paires de pompes pour nous d'abord et pour nos potes. Ça avait pas vocation à être si gros que cela ne l'est aujourd'hui. C'était plutôt on va faire quelque chose en parallèle avec nos études, on va faire un test, si jamais on se foire, bah tant pis. On avait essayé de limiter un petit peu dans notre business plan en donnant différents scénarios, si ça marche pas du tout, si ça marche très bien, comment on fait. Ça, c'est une limite importante qu'on avait donnée dans le business plan et qui nous a pas mal aiguillé tout au long de notre aventure. Pourquoi les chaussures? Bah parce qu'on y était attaché, je crois. Il y avait le côté mode. Il y a un côté aussi, quand on fait un produit, ça paraît beaucoup plus concret. Je pense que quand on est jeune, ça avait une vocation, ça parlait plus, quoi. Le fait d'avoir un produit en main, on est moins dans le côté très pensé, très.
C'est vrai qu'on n'a pas tous envie de devenir courtier en assurance.
Ouais, voilà, ça paraît moins abstrait, quoi.
Tu disais aussi un semestre à l'étranger qui était un peu plus
Voilà,
là-dessus.
on était. Tu nous as pas mal montré le côté entrepreneur et qui est encore bien plus développé qu'en France, des Chinois qui ont tous envie d'entreprendre à différents niveaux, en fait. On se rend compte souvent quand on parle d'entrepreneuriat en France, on pense tout de suite aux grandes sociétés. D'ailleurs, vous faisiez tout à l'heure en présentation la comparaison entre entrepreneurs d'aujourd'hui et entrepreneurs de demain. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs aussi, je pense à tous les petits commerces, etc., qui n'ont pas vocation à faire des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui pourtant sont des entrepreneurs, ont l'expérience de l'entrepreneuriat et s'épanouissent très très bien là-dedans. Donc je pense qu'il faut aussi, et c'est ça que peut-être qu'il faut rappeler aux jeunes, c'est que l'entrepreneuriat, il est accessible parce qu'on peut l'aborder à tous les niveaux. Et en Chine, c'est quelque chose qu'on a très bien compris. Puisque des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, je pense pas que ça ne touche que les jeunes, mais arrivent, achètent une carriole, trois brochettes, et puis paf, ils commencent à faire des brochettes, et puis au fur et à mesure, ça augmente un petit peu, et ça les satisfait, et ils arrivent à embaucher une autre carriole, etc. Donc il y a aussi cette question de croissance en partant de très très bas, quoi.
Exactement, il faut pas imaginer non plus que ceux qui se lancent, c'est parce qu'ils ont obtenu un prêt
De 2 millions
de 2
d'euros,
millions
et
à la banque.
ouais. Ouais. Je
Où,
pense.
dont le père a un compte à la banque Rothschild.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Je pense que c'est un point essentiel, ça. Donc oui, donc là, ton semestre à l'étranger où tu as découvert cet esprit qui m'a l'air bien fabuleux des Chinois, c'est fin 2007, ça.
C'est ça.
Et donc, la société se crée en 2008.
Voilà, on avait passé en rentrant avec cette idée dans les bagages et pas grand-chose de concret derrière. On avait passé 5 mois où on avait. À la sortie de ces 5 mois, on était un peu dans une situation embarrassante parce qu'on commençait à dire qu'on allait créer cette société, puis il n'y avait réellement rien de fondé derrière. Et alors, sur le coup, on s'est dit, on a perdu 5 mois de temps, et avec du recul, ça nous a permis de bien mûrir notre idée. Ça a été beaucoup plus facile pour nous parce qu'on avait déjà un peu élagué ce qu'on ne voulait pas faire, ce qu'on voulait faire. On avait eu l'occasion d'en parler longuement avec d'autres personnes qui apportaient des idées, qui apportaient des. Et de là, on est parti dans une période de stage que l'on a fait au sein de notre entreprise. En négociant un petit peu avec notre école. Et on a fait notre stage donc pour créer ce business plan. Alors, on est parti d'une conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui s'appelle De passer de l'idée au projet, qui a lieu tous les 15 jours, que j'invite tous les entrepreneurs qui sont un petit peu avancés dans des projets à aller écouter.
D'accord, bah on retrouvera les références sur le
Oui.
site dans ce cas-là.
Voilà. Et de cette conférence, on en est ressorti 7 étapes clés pour arriver, de passer de notre idée qu'on avait à la réalisation de notre idée et à vraiment la création de la société et la distribution de nos produits. Donc là, on a commencé par la base, une étude de marché, l'analyse de tous nos concurrents, comment fonctionne le marché, qui est acteur, qui est producteur, qui est distributeur, qui est le consommateur. Donc voilà, donc ça, on a passé près de 2 mois et demi là-dessus. Où finalement, ça apporte toutes les réponses qu'on se pose par la suite. C'est-à-dire qu'après, on peut se poser n'importe à qui je vends, je comprends tout de suite à qui je vends parce que j'ai déjà étudié qui pouvaient être les clients potentiels, etc. Donc ça répond vraiment à toutes les questions et ça évite de griller des étapes, je pense.
Tout à fait, tout à fait. Et donc ce business plan, tu me disais aussi qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier, c'est que le bilan carbone de la société était déjà inclus dedans.
Voilà, alors nous on a fait un bilan carbone, on voulait entreprendre avec des valeurs, on voulait rester, je pense qu'à notre génération on a tout à réinventer via les réseaux sociaux et via le côté attentif à la planète. Et du coup on avait fait le premier constat, c'est de se dire on n'a peut-être pas les moyens d'aller faire des analyses profondes, mais on va calculer notre bilan carbone pour voir un peu les dépenses énergétiques et toute la pollution que va engendrer notre activité dans le futur. Et on a été le premier bilan carbone sur projet à être fait en France. Depuis là, on le recalcule maintenant chaque année pour voir les évolutions, les points où on a pu s'améliorer depuis et puis mettre en parallèle avec notre compensation carbone puisqu'on plante un arbre pour une paire de chaussures achetées. Et dans ce business plan, il y avait d'autres valeurs qui nous semblaient importantes à dire un peu côté entrepreneur, c'est qu'on avait, il nous manquait de l'argent parce qu'il nous fallait au départ 50 000 euros et que nous, on n'avait pas 50 000 euros à mettre. Et du coup, on avait demandé à 15 copains de chacun mettre 1000 euros, ce qui est envisageable, et en se disant qu'à la fois, c'était un peu reprendre le système de My Major Company, à savoir que bah, vous êtes consommateur, mais vous êtes aussi le producteur. Et du coup, bah, c'est vous qui allez dire à tous vos amis, je suis sûr que n'importe qui mettrait 100 euros sur un disque, et que si le disque paraît, déjà, ça sera le premier acheteur. Il achètera le disque et ensuite il dira à tous ses copains d'acheter le disque. Et bien nous, on a été un peu partis sur le même principe. Et c'est pour ça qu'on avait choisi, on aurait pu aller voir un business angel qui nous donnait directement l'enveloppe dont on avait besoin. Mais on a préféré répartir cette enveloppe sur plein de personnes qui nous ont aidés par la suite dans la communication.
Et puis je pense qu'ils sont plutôt contents aujourd'hui vu le succès de la marque.
Voilà, ils sont plutôt contents.
Donc on a fait un petit peu le tour de la création d'entreprise. Peut-être une dernière question à ce sujet, un peu plus de ressenti, un peu plus personnel. Évidemment, quand on se lance, il faut des connaissances. Enfin, il faut des connaissances, il faut acquérir des connaissances en tout cas. Il faut connaître la loi, il faut connaître comment écrire un business plan, etc. Où tu as trouvé le maximum d'informations? Est-ce que c'est en cours en école de commerce? Est-ce que c'est entre enseignants par toi-même?
Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est...
Je reviendrai sur le début de la question qui est on rencontre beaucoup de difficultés, bah au final pas tant que ça. Tout est assez fluide, tout est assez finalement on reproche beaucoup de choses à l'administration fiscale française et administrative en France. Et finalement, moi j'ai trouvé que les choses étaient relativement bien organisées. J'ai trouvé la boîte à outils du site de la PCE
Ouais, le site
qui
de la
est
PCE
très
est
très
vraiment
très
très
bien
très bien
fait
fait.
et dans lequel on trouve un business plan type dans lequel il n'y a plus qu'à remplir des cases. Il y a des petits points quand ça concerne votre activité. Et il suffit de remplir les petits points. Donc, c'est tout mis en forme très, très rapidement. Et je crois que la seule difficulté que j'avais rencontrée, c'était par rapport à dans le dépôt de mes statuts quand je devais choisir la manière dont je devais payer mes impôts. Et ça a été la plus grosse
Ah
difficulté.
oui, la fameuse case.
Oui, parce qu'il faut, il faut le faire sur le.
Voilà, mais
Il faut calculer
finalement.
en fait sur le prévisionnel et donc on ne sait pas forcément
Encore une fois, je rappelle souvent aux entrepreneurs, on a la chance du coup de recevoir beaucoup d'entrepreneurs dans nos bureaux, et je rappelle toujours cette chose, c'est que c'est très facile. En une journée, une entreprise, elle est montée. Ça ne prend pas plus d'une journée, ce qui prend du temps. Et souvent, les gens essaient de monter l'entreprise avant même d'avoir validé leur idée, compris qu'est-ce qu'ils allaient faire comme métier. Et je rappelle que bah, nous, ça a été 3 mois où on a travaillé notre idée. On ne s'est pas du tout intéressé au statut, à la SARL, à l'argent, à quoi que ce soit. On a passé 3 mois et après, bon, la dernière journée, elle est limpide parce que pour monter, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup de choix. Une fois qu'on a compris quel métier on allait faire, c'est très simple de faire ses choix.
Exactement. On a tout prévu, on n'a plus qu'à aller chez son banquier, lui donner un peu de liquide et retourner à l'école de
Exactement.
commerce. Voilà, on a tous connu ça, je pense.
Ouais.
Donc oui, donc maintenant on va parler de la marque Fago Shoes et des produits, des chaussures, donc je suppose.
Voilà.
Hein?
Alors, Fago Shoes, bah, c'est des chaussures simples et tendances. On aime bien les appeler comme ça parce que ce qu'on voulait, c'était garder un produit fashion mais sobre et qui maintenant est reconnu du marché. On avait commencé avec un modèle et 4 couleurs. Maintenant, on est à 3 modèles répartis à chaque fois avec une dizaine de couleurs. Donc, on a 30 produits différents. C'est des chaussures mixtes qu'on trouve chez Citadium, chez Kiliwatch, aux Galeries Lafayette, chez Printemps, au Japon, en Belgique. On part au Canada lundi pour commencer la distribution au Canada. Donc, ça bouge beaucoup, beaucoup. Et voilà, et on va lancer notre gamme enfant le 1er février. On était parti avec 4000 paires, maintenant on produit 40 000 paires par saison, donc 80 000 paires à l'année à peu près. Pour l'année prochaine, c'est ce qui a été mis en route. Voilà pour vous parler un petit peu de la marque et avec ce concept de à la fois d'être à la mode, une entreprise de jeunes pour des jeunes, et puis ce côté une paire achetée, un implanté. Donc cette volonté de faire attention à nos émissions carbone.
Et une question un petit peu basique, peut-être que comment ça marche quand on se lance dans un business que je ne connais pas du tout, moi, par exemple, qui est celui du vêtement, de la chaussure. Comment ça marche? Est-ce qu'il faut designer ses produits soi-même? Est-ce qu'il y a des sous-traitants qui proposent une différente gamme sur lesquelles on personnalise? Comment ça se passe
Non, non,
concrètement?
il faut designer soi-même. En fait, tout dépend de ce que l'on souhaite. Mais nous, quand même, on avait des idées assez arrêtées sur ce que l'on souhaitait. On a designé nous-mêmes et des copains qui n'étaient pas obligatoirement très qualifiés. Donc, au départ, on galère un petit peu. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'a pas non plus réinventé la chaussure. Notre chaussure, elle reste simple. Elle répond à une demande pour pouvoir marcher avec. Donc, on est on est assujetti à pas mal de contraintes et on n'est pas encore des créateurs qui vont faire des choses complètement hors normes. Donc voilà, non, ça, on apprend sur le tas très facilement, je crois.
Et vous situez comment au niveau prix? Vous avez positionné comment au niveau prix par rapport aux géants que peuvent être Nike, Adidas ou...
Même si c'est plus des secteurs sportswear.
Voilà. Alors, on est sur entre 50 et 70 euros dans du moyenne gamme mode.
Oui, donc...
De la mode accessible.
Il n'y a pas de premium par rapport à une marque... par rapport à une marque qui va être beaucoup plus distribuée, il n'y a pas de premium à rajouter pour bénéficier de justement cette compensation du carbone, etc.
Pas du tout. Justement, ce qu'on veut, c'est que nos efforts sur l'environnement ou sur le côté société, puisqu'on confie aussi notre logistique à un centre d'handicapés en phase de réinsertion, et on ne veut surtout pas que ça soit imputé sur le prix consommateur.
Donc, on a eu, je pense, un bon aperçu du produit, un produit simple et tendance. Et en même temps engagé pour l'avenir, que ce soit du point de vue écologique avec des arbres plantés, sociétal avec l'insertion de personnes handicapées, c'est ça. Donc maintenant, on va peut-être aborder tout ce qui concerne le marketing et la distribution. Donc le marketing, on en parlera, mais la distribution, surtout, c'est le point qui m'étonne le plus pour l'instant, parce que comment on fait quand on est étudiant pour vendre des chaussures? On ne va pas aller... dans la galerie Lafayette et leur montrer la collection et dire achetez-les, non ça.
Ouais, alors c'est sûr, quand on commence comme ça une activité, on a souvent des budgets communication proches de zéro, c'est les enveloppes les plus faciles à réduire.
sur un
budget de communication, c'est souvent les enveloppes les plus faciles à réduire. Et du coup, nous au départ, pour se faire connaître, on avait choisi de faire un système de vente privée. À savoir, on avait demandé à des amis qui étaient habités à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Poitiers, on en avait fait à Reims et à Lille, je crois, de contacter via Facebook, de créer un événement Facebook où on annonçait qu'on allait venir une journée chez eux pour faire une vente de chaussures. Et donc, nous, on jouait de notre réseau, eux jouaient du leur, et on reprenait le système vieux comme le monde de Tupperware, des ventes Tupperware, où c'est des petites ventes de réseau, et ça a très très bien marché. Et du coup, on est tombé en rupture au bout de 15 jours sur le stock initialement prévu sur un an. Et du coup, nos clients sont automatiquement allés voir leur magasin de référence mode pour aller chercher cette fameuse paire de chaussures qu'ils n'avaient pas réussi à avoir parce qu'ils n'étaient pas là aux ventes privées, parce qu'ils en avaient entendu parler trop tard. Et du coup, ces magasins se sont mis à nous contacter. Et c'est comme, on a un peu inversé le système de distribution. D'habitude, c'est une marque qui propose à des magasins et le magasin propose à ses consommateurs. Et ben nous, on est allé proposer au consommateur tout de suite. Le consommateur est allé demander la marque à son magasin. Et du coup, le magasin est venu vers nous pour demander à distribuer la marque. Et donc maintenant, en France, on est à 100 points de vente. On en a 250 en liste d'attente qu'on ne peut pas livrer pour le moment.
Donc ça, c'est un peu le rêve de tout entrepreneur. Ça, deux semaines après, on vient de commencer la commercialisation. Deux semaines après, un, on est en rupture de stock. Deux, on ne démarche plus. C'est les distributeurs qui viennent demander les produits. C'est quand même incroyable.
C'est incroyable, mais ce n'est pas évident à gérer. Et ça prouve qu'on n'a pas été bon dans notre analyse aussi. Ça ne plaira pas du tout à un banquier, ce genre de phénomène, parce que ça veut dire que tu ne contrôles pas ce que tu fais. Donc, il faut être vigilant aussi. Et on n'était pas loin d'aller dans le mur. Juste avant, on avait senti que ça allait bien. Du coup, on avait repassé une commande. On est resté 2 mois en rupture parce que nous, on produit en Chine. Et du coup, on a des laps de temps assez importants entre... passer une commande et réception d'une commande, surtout qu'on fait du transit par bateau en termes d'environnement. Et donc voilà, et donc il faut, oui, c'est le rêve de l'entrepreneur que son projet réussisse, mais attention à pas se brûler les ailes. Et on en voit des entreprises qui cartonnent tellement dès le début, qui se brûlent les ailes et qu'elles n'arrivent pas à absorber, que c'est très difficile, surtout encore plus quand on est étudiant peut-être, de se dire oui, il faut qu'on embauche quelqu'un, quel choix on fait, de faire ses premières embauches, ses premiers recrutements de manière hâtive, c'est pas toujours évident à gérer. Donc attention aussi à ce phénomène-là, et que si il nous arrive quelque chose qui n'a pas été prévu dans ce sens-là, ça aurait très bien pu être pas prévu dans l'autre sens aussi.
Et donc la communication, on en parlait tout à l'heure, c'est Facebook principalement, c'est ça?
On cherchait des supports de communication gratuits, bien évidemment, un jeune projet. Et du coup, on était dans la pleine époque des groupes Facebook qui servaient à rien. Et du coup, nous, on s'est dit, on va lancer un groupe pour nos chaussures sur Facebook. Et voilà. Et tout de suite, ça a pris grâce à notre réseau d'école de commerce. Je crois que c'est un des avantages d'être en école de commerce. C'est qu'on bénéficie d'un large réseau, on bénéficie d'une grande liberté parce qu'on n'a pas encore de charges réelles. Et du coup, oui, je disais, donc Facebook, grâce à notre réseau d'écoles de commerce, grâce à nos associés, comme je le disais tout à l'heure, qui ont investi au début, qui ont évangélisé un petit peu la page fan Facebook. Et du coup, de là, on a eu une grosse, grosse communauté Facebook et qui anime beaucoup les blogs, qui donne de la crédibilité à la marque et qui permet ensuite, quand les blogs commencent à en parler, la presse commence à relayer les informations.
D'accord, d'accord.
Mais c'est sûr qu'on n'avait pas d'autres moyens de communication au départ.
Les 4 par 3 dans le métro, c'est...
Ouais, c'était pas encore accessible.
Donc voilà, tu commençais à en parler tout à l'heure, on a dit quelques mots. Donc tu étais étudiant entrepreneur. Donc qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Est-ce que tu la recommanderais? Est-ce que c'est difficile?
Oui, je la recommande parce que c'est une super expérience et à part tordre de monter sa petite société, c'est vraiment super sympa. En revanche, je dirais attention à quelques points, ne grillons pas les étapes trop vite, profitons de notre vie étudiante à fond. Parfois, je sais qu'en 4e et 5e année, quand j'étais à la fois gérant de Fago et que je sortais de cours et qu'avant, on sortait de cours et on profitait de ces instants bière, de ces instants, on acceptait toutes les soirées parce qu'on avait plein de temps. Et du coup, bah, peut-être à certains moments, on s'est dit, on est peut-être allé un peu trop vite. C'est dommage qu'on n'ait pas profité à fond de ce qu'on avait déjà et de vouloir griller les étapes. Bah, on ne peut pas tout faire dans tous les cas. Donc, évidemment, on est obligé de faire des choix. Donc, c'est le seul bémol que je mettrais. Après, très enrichissant, très, très bonne expérience. On est relativement bien entouré parce qu'on arrive à se faire aider de certains professeurs, Et puis on a encore l'esprit jeune et dynamique, on n'est pas encore cadré dans des entreprises où on a des process déjà très très ancrés en tête.
Mais tu te verrais cadré dans une entreprise ou est-ce que tu penses que tu as été entrepreneur une fois, c'est entrepreneur, c'est pour toujours?
On a souvent la discussion et je pense qu'on est fermé à... On est fermé à rien. Pour l'instant, oui, je dirais que si un jour ça devait s'arrêter, j'aurais envie de recréer quelque chose d'autre. Après, peut-être parce que ça a été un très bon succès. Je ne suis pas sûr que ce succès, on puisse le reproduire de manière très facile. C'est aussi beaucoup d'énergie. Je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans. Donc, c'est délicat d'y répondre. Mais oui, dans l'idée, je ne suis pas du tout opposé à remonter une société plus tard.
Parce que d'autant plus qu'en tant qu'étudiant, même si maintenant tu ne l'es plus, on est d'accord qu'il n'y a aucun risque à créer une société.
Oui, il y a très peu de risques, ouais. Et qu'en plus, on monte une société avec peu d'argent au départ et que du coup...
On va terminer sur un petit peu les perspectives futures. Je sais déjà que Fago a eu des prix assez prestigieux cette année.
Voilà, donc on a gagné le prix de l'entrepreneur étudiant organisé par la CCIP, donc Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Ernst & Young, sous... la tutelle de Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement, je crois. Et donc, on a été lauréat de ce prix, ce qui nous a offert pas mal d'ouverture. Et c'est un retour qu'on a fait un peu tardivement chez Fago. C'est-à-dire qu'on a tellement été dépassé par notre croissance que pendant un an, on s'est enfermé complètement à gérer nos petits problèmes en interne. Et c'est qu'au bout d'un an, on avait un peu plus structuré, on avait pu embaucher, etc., qu'on s'est dit... il faut qu'on fasse plus de networking, il faut qu'on aille rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cadre que nous, qui sont aussi étudiants, et faire des partages d'expérience. Et c'est par cette occasion, je pense que la victoire n'est pas très importante, c'est plus le côté qu'est-ce qu'on était allé chercher dans ces concours-là, c'était valider notre idée, avoir un esprit, avoir des gens qui vous attaquent sur votre projet et qui essaient de vous faire regarder un peu plus loin que le bout de votre nez. Et voilà, et du coup, depuis, oui, on a essayé de s'instaurer, d'aller au moins 2-3 fois par mois dans des cercles d'entrepreneurs, des cercles de dirigeants d'entreprise.
Donc, en plus, tout ça, ça vous aide à croître. On a vu, vous avez eu une croissance absolument explosive sur l'année 2009. Alors,
partant de zéro, on arrive toujours à faire des milliers de pourcents de croissance. C'est l'avantage.
C'est l'avantage.
Mais ça fait bien sur un PowerPoint. Ouais. Mais donc pour 2010, ça donne quoi? C'est toujours aussi explosif.
Et donc on prépare notre deuxième clôture. Voilà, et sur lequel on espère faire deux fois plus que sur la première année, donc avec une croissance de l'ordre de 100% et qu'on espère encore faire l'an prochain.
La Chine va être jaloux, hein, une croissance à 3 chiffres.
Ouais, voilà, c'est ça. On la maintient.
Et si nos auditeurs ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur la marque ou de voir les produits, je pense qu'il y a un site.
Voilà, je vous invite à aller sur www.fagoshoes.com, F-A-G-U-O-6. shoes.com ou sur notre page fan Facebook en tapant Fago. Vous retrouverez rapidement notre actualité, notre départ au Canada pour la nouvelle distribution, les nouvelles implantations qu'on est en train de faire au Japon, l'ouverture d'un magasin à Hong Kong la semaine prochaine aussi en parallèle, et voilà. Donc toutes ces informations sur www.fagoshoes.com.
Vous allez bientôt plus passer de temps dans les avions que...
On en passe déjà trop.
Merci, hein, c'était très intéressant. On ne manquera pas de demander quelques nouvelles d'ici quelques temps, voir si la croissance continue, si après le Canada, je ne sais pas, vous avez attaqué les États-Unis, ce qui est un énorme marché, non?
Voilà, là, on y va là, dans deux semaines.
Dans deux semaines, après, écoutez. Voilà. Écoutez, c'est parfait.
Merci beaucoup à vous. Et puis, alors, pour tous ceux qui nous écoutent, entreprenez, n'hésitez pas à foncer, quoi. C'est génial.
Voilà. Exactement.
Merci beaucoup. On aurait
pas les convaincus, voilà. Exactement.
Merci beaucoup. Dans un court instant, parler des différentes structures pour cette entreprise, c'est ça. Et également des bases du business plan. Allez, à tout de suite. Retour sur le plateau des créateurs d'avenir, l'émission des jeunes qui entreprennent leur vie. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Artus, qui pour cette première chronique d'aide à la création, va nous en apprendre un peu plus sur les différentes structures disponibles pour créer son entreprise.
Donc en fait, pour cette rubrique, on va se limiter à quatre statuts qui sont vraiment essentiels et les plus communs en France. Donc il y a depuis peu en fait le statut d'auto-entrepreneur, que tout le monde a quand même entendu pas mal parler, également l'entreprise individuelle, également les sociétés anonymes, dont la société anonyme simplifiée qui est relativement intéressante lors de la création d'entreprise.
D'accord, et les principales différences entre ces structures ?
En fait, la principale différence que l'on va avoir, c'est qu'il va y avoir des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Donc en fait, l'auto-entrepreneur et l'entreprise individuelle sont des sociétés de personnes, tandis que la SARL, la SAS et donc la SA sont des sociétés de capitaux.
Société de capitaux, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour se lancer ?
Non, en fait, pas au point de vue financier, puisque la SARL comme la SAS, le capital de départ minimum, c'est 1 euro, donc c'est vraiment pas un souci financier. À part la SA qui est vraiment à 37 000 euros, c'est vraiment pas une histoire de gros sous. En fait, la vraie question, c'est la question de la responsabilité des dirigeants. En fait, lors d'une entreprise individuelle, lors d'une société de personnes, c'est la responsabilité du dirigeant sur ses biens personnels peut être engagée. Que dans une société de capitaux, la responsabilité du dirigeant est en fait limitée à ses apports.
D'accord, donc ce qu'il a mis en argent dans la société.
Exactement, ce qu'il a mis au capital.
Et donc ça veut dire que si moi je suis auto-entrepreneur ou si je suis entrepreneur individuel et que j'ai des dettes envers mes fournisseurs ou envers l'État, les huissiers peuvent débarquer pour me saisir ma maison ou ma télé.
C'est un petit peu simplifié, mais en gros c'est ça. Ouais.
Et pourquoi tout le monde ne choisit pas des sociétés de capitaux alors ?
Alors c'est très simple, c'est les facilités de gestion qui sont accordées aux sociétés de personnes et notamment les impôts qui sont prélevés. Il faut savoir que l'impôt sur les sociétés c'est un tiers, c'est 33%, donc c'est quand même assez lourd.
33 un tiers même, 33
ouais,
un tiers.
33 un tiers, ouais.
Et entre les différentes sociétés de capitaux, est-ce qu'il y a des différences notables ?
Alors, il y a des différences notables. Donc déjà, la SA, donc là, c'est vraiment quelque chose de vraiment à part. C'est une structure très lourde, très encadrée. Personnellement, je ne la conseillerais pas, en fait, pour le début d'une société, vu que c'est vraiment une très grosse structure à mettre en place. Et les règles sont vraiment très strictes. Entre la SAS et la SARL, c'est assez ressemblant, en fait, puisqu'il est possible de créer une SAS à partir d'un euro de capital seulement. La principale différence, en fait, elle va se situer au niveau des charges fiscales. C'est-à-dire que la SARL va permettre d'être en franchise en base de TVA, c'est-à-dire que l'entreprise ne paye pas la TVA, ce qui peut être intéressant pour les petits chiffres d'affaires, alors que pour la SAS, elle va permettre beaucoup plus de souplesse dans la gestion.
Et dernière question, combien ça coûte en temps comme en argent de créer son entreprise ?
Pour ce qui est de l'auto-entrepreneur, en fait, c'est très simple, c'est gratuit, il y a juste un formulaire à remplir sur Internet. Maintenant, pour les autres structures, et en fait, il faut se déclarer auprès du greffe du tribunal de commerce donc, de votre région, de votre département. Et donc, il y a, dans tous les cas, une annonce à publier au journal légal et également des frais de greffe. Cela va être environ un total de 200 euros. Par contre, ça va vraiment être des démarches administratives qui vont être longues. Il faut être assez rigoureux et donc comprendre les formulaires, c'est toujours un petit peu un casse-tête, notamment le fameux formulaire M0 qui est un petit peu le pilier de la création, donc c'est assez lourd, mais vous pouvez retrouver de toute façon toutes ces informations sur notre site internet.
Il est magnifique le M0.
Ouais.
Moi aussi. Donc au final, il n'y a pas de structure type à conseiller. Chaque entrepreneur a une structure qui lui convient mieux qu'une autre.
Exactement, sachant que la structure doit être adaptée en fonction des besoins de l'entreprise et de chiffres d'affaires escomptés. Et il faut savoir qu'il y a des différences entre chaque modèle. Il faut les connaître pour bien choisir en fonction de ce qui nous intéresse. Personnellement, je conseillerais tout de même tout ce qui est SARL et SAS pour les projets qui ont l'objectif de développer à court et moyen terme. C'est quand même quelque chose de plus sécurisé au niveau des biens personnels. Et puis, c'est quelque chose qui permet vraiment de voir venir.
Eh bien parfait, vous en savez désormais un peu plus sur les différentes structures possibles pour créer votre entreprise. Et on ne manquera pas de vous les passer au crible dans cette rubrique dans les prochains numéros de notre émission.
Oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez important et donc on y consacrera plusieurs rubriques dans plusieurs émissions.
Parfait, on va continuer à parler des aspects un peu plus théoriques de la création avec ta rubrique d'aide à la réussite. Et cette semaine, on va parler des bases d'un business plan réussi.
Avant de nous dire en détail à quoi il ressemble, tu vas peut-être nous dire à quoi il sert et pour qui on l'écrit.
Donc en fait, l'objectif premier du business plan, ça va être de présenter tous les aspects de votre projet. Et donc, ça va vous permettre de prouver que vous avez pensé à tout et que vous avez tout prévu pour votre projet. Maintenant, à qui il s'adresse ? Donc, bien entendu, il va s'adresser à des investisseurs, aux banques, à vos fournisseurs, à vos clients pour avoir un contrat ou pour décrocher un accord ou un partenariat. Mais avant tout, il faut savoir que le business plan, c'est un document interne qui va vous permettre de voir l'évolution de votre stratégie au cours du développement de votre entreprise.
Alors, on va peut-être revenir justement sur son objectif premier, donc présenter tous les aspects d'un projet. Est-ce que tu peux nous les détailler, tous ces aspects ?
Donc, la première rubrique va être les informations essentielles. Ça va être sous la forme d'une introduction, finalement, à votre business plan. L'objectif dans cette rubrique, c'est de décrire en 10 maximum votre produit ou votre service, d'expliquer son fonctionnement et ses composantes essentielles, et donc également détailler l'objectif de votre présentation. Donc là, vous devez adapter en fait votre business plan à votre interlocuteur. La seconde partie va reprendre en fait la description de l'entreprise, donc qui vous êtes, d'où vient l'idée, c'est un petit peu l'historique de l'entreprise si vous voulez, et également sa structure juridique, donc son nombre d'employés, pourquoi elle a été choisie comme ça au niveau des statuts, et également son chiffre d'affaires prévisionnel. La troisième rubrique est assez complémentaire à la deuxième finalement, puisque ça va être la division de l'entreprise et de ses hommes clés. Donc la troisième rubrique va être assez complémentaire à la seconde, puisque ça va être la division de l'entreprise et de ses hommes clés. Donc comment répartir le business, l'utilité de chaque division, des hommes clés, etc. Maintenant, si votre projet est assez réduit au niveau nombre de collaborateurs, je vous conseille de fusionner ces deux rubriques.
Bon, c'est sûr que ce n'est pas forcément utile dans les petites structures. Il vaut peut-être mieux se consacrer à l'écriture des autres rubriques sur le produit, par exemple.
Oui, effectivement, en fait, c'est notre rubrique suivante. C'est votre produit ou votre service. Donc, quelle est sa fonction ? Quelle est son utilité ? Et il faut également décrire toutes ses composantes essentielles. L'idée, c'est que votre interlocuteur se fasse une réelle idée de qu'est-ce que vous proposez. Donc la rubrique d'après va être le marché en fait. Vu que votre produit répond forcément à un besoin, vu que vous le lancez, il faut savoir quelle est la population cible de votre produit, donc déterminer les marchés types, etc. Donc ce sont toutes des informations dans cette rubrique marché qui vont être issues d'études de marché. Et nous reviendrons sur les études de marché en général lors d'une autre émission, lors de cette rubrique dans une autre émission. Donc, qui dit marché dit concurrence. Donc finalement, si vous avez identifié vos concurrents, qu'ils soient directs si vous vous lancez sur un marché qui existe déjà, ou alors indirects si vous faites une innovation, sachant qu'un besoin est toujours répondu quelque part par un autre produit. L'idée et l'objectif de cette rubrique, c'est de déterminer votre USP, donc Unique Selling Point, c'est en quoi votre produit est meilleur que la concurrence. Et enfin, pour compléter en fait la caractéristique product qui a déjà été vue précédemment. Donc on va finir les 4 P.
D'accord, donc les 4 P, pour ceux qui ne sont pas spécialistes en marketing, en bon français ça donne le produit, le prix, la distribution et la communication. Et on viendra dessus dans les prochains numéros de ta chronique, je crois.
Oui, effectivement, c'est une composante essentielle lors de la création de l'entreprise et même en règle générale dans le développement de l'entreprise. Donc on y reviendra tout au long de la saison. Dans la rubrique suivante, c'est la rubrique financière, on va retrouver tout ce qui est bilan prévisionnel sur 3 ans de préférence et également tous les paramètres qui ont été pris en compte pour établir ce bilan. La rubrique suivante sera les besoins, en fait. Vu que vous adressez à un interlocuteur, il ne faut pas oublier de lui dire ce que vous attendez de lui. Donc là, c'est vraiment une rubrique très personnalisée et qu'il faut adapter nécessairement à votre interlocuteur. Et enfin, ne pas oublier de conclure.
D'accord, une fois qu'on l'a fini ce business, on l'imprime sur du beau papier en tête, on le met dans un joli classeur à anneaux et puis on le range sur les étagères de son entreprise, c'est ça ?
L'objectif d'un business plan, c'est de prendre une photographie du projet à un instant T. Donc si on range celui-là et on le conserve, on va bien s'apercevoir qu'au bout d'un moment, le négatif va devenir un petit peu flou. Donc l'objectif, c'est tous les 3 à 6 mois, 3 mois reste quand même quelque chose de mieux, pour refaire son business plan. C'est de refaire donc son business plan à partir de la feuille blanche. Ce travail à partir de la feuille blanche est nécessaire pour pouvoir comparer les 2 business plans à 3 ou 6 mois d'intervalle et donc voir l'évolution de son produit ou de son service. On peut se rendre compte dans ces moments-là que le produit n'a pas forcément évolué dans le sens qu'on attendait et on peut voir de nouvelles pistes de développement pour son projet.
Et ben voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur le business plan et je pense que tu manqueras pas de nous en parler plus en détail dans la suite de la saison.
Oui, dans tous les cas, vu que ça regroupe toutes les rubriques de la création d'entreprise, donc ça sera notre trame et on utilisera ce business plan pour détailler toutes les étapes de la création d'entreprise.
Et donc, je l'évoquais dans le sommaire, cette semaine, notre entrepreneur emblématique, c'est un mania de la chaussure, Philippe Knight, qui a fondé Nike. Il y a d'ailleurs pas mal de points communs avec l'aventure de Frédéric Mullier et de Fago Shoes, comme on va le voir au cours de cette rubrique. Alors Philippe Knight, comme beaucoup d'entrepreneurs dont on va parler cette saison, il s'est quand même assez vite lassé des bancs de l'école. En l'occurrence, lui, c'était l'université de l'Oregon, sur la côte ouest des États-Unis, et il a préféré fréquenter les stades d'athlétisme, où il gagnera quelques coupes, tout en réussissant à obtenir son Bachelor of Journalism, donc l'équivalent d'une licence de journaliste, en 59, donc à 21 ans.
Et là, il se dit, plutôt courir avec des Adidas, je vais lancer ma marque de basket ?
Non, pas encore. Il va d'abord passer un an dans l'armée de l'air, et puis il va passer un MBA à la fameuse université de Stanford, en Californie, on connaît tous, je suppose.
Ouais.
Une des écoles de commerce, donc les plus renommées des États-Unis. Lors de son premier cours de Small Business Administration, il a la révélation. Selon ses propres termes, il découvre une nouvelle histoire d'amour avec l'entrepreneuriat comme avec l'athlétisme auparavant. Et là, son avenir commence à se tracer, car le sujet de son mémoire de fin d'études est « Est-ce que les baskets japonaises peuvent faire aux baskets allemandes ce que les appareils photo japonais ont fait aux appareils photo allemands ?» Alors, après ce mémoire, il va finir ses études et il va devenir importateur exclusif des chaussures japonaises Tiger, qu'il a découvert lors d'un voyage au Japon, et qu'il va vendre en ouvrant une boutique en Californie, qui déjà, à l'époque, était le paradis des entrepreneurs.
Alors finalement, comment il va passer de ce statut de détaillant à celui de fabricant ?
Au bout de 2 ans, revendeur, ça commence à le lasser quand même, comme poste. Et il veut vraiment créer sa propre ligne de chaussures en améliorant les Tiger, parce qu'il trouve qu'elles ont quand même quelques petits défauts. Et donc, pour améliorer les Tiger, il va créer les Blue Ribbon, fabriqués toujours par Tiger, et vendu par la société qui vient alors de créer, la Blue Ribbon Company, qui deviendra Nike, et qui va gérer à temps partiel, en trouvant un job de consultant. Et puis 3 ans après, la marque commence à vraiment décoller, il quitte son job de consultant, et il s'y consacre à temps plein. Et c'est à cette époque qu'il va la renommer Nike, en l'honneur de Nike, la déesse grecque de la victoire. Donc pour la petite histoire, c'est aussi là qu'est créé le swoosh, le logo bien connu de Nike, cette virgule inclinée, par une étudiante en graphisme, payée 35$. Bon, pour la récompenser quand même, contrairement à ce qu'on dit souvent, quand Nike deviendra le numéro 1 américain de la chaussure en 1981, elle touchera tout de même un chèque d'un montant plutôt significatif. Et Nike enfin, c'est surtout de l'innovation, avec des lancements de chaussures technologiques, qui ont commencé avec la première véritable chaussure sous la marque Nike, la Waffle, la gaufre en français, une chaussure avec une semelle révolutionnaire inspirée de la forme des gaufres, amortissant les chocs et aidant les coureurs à rebondir. Puis les Nike Air en 1979, où la semelle est remplie de poches d'air, toujours pour de meilleures performances et un meilleur confort. Et la technologie continuera à guider Nike dans ses lancements de produits, avec notamment le lancement plus récent du Nike plus iPod, un accessoire à glisser dans ses chaussures pour suivre ses performances de course sur son iPod.
D'accord. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement du succès de cet entrepreneur ?
Bah, s'il y a une leçon à tirer de l'aventure de Phil Knight, et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, même si Dieu sait que j'en suis friand, c'est tout simplement le slogan de sa marque.
Ouais, just do it.
Just do it. Pour tous ceux qui nous écoutent, hein, et qui n'ont pas encore franchi le pas de la création d'entreprise, et qui en rêvent, pour les plus optimistes, ou qui essaient de trouver des prétextes de ne pas le faire, pour les pessimistes, eh ben allez-y, just do it, hein, vous ne le regretterez pas. Et bien, c'est déjà l'heure de conclure cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, pour moi, ça a été un véritable plaisir de l'animer. Je pense que c'est la même chose pour toi.
Exactement, oui. C'est un petit peu l'accomplissement de pas mal de travail, on va dire.
Exactement. Et en attendant la semaine prochaine, bah, vous pouvez nous laisser vos commentaires ou vos encouragements, hein, sur notre site www.lescreateursdavenir.com. Créateurs au pluriel, avenir au singulier. Et on va conclure cette émission, ça va devenir une petite tradition, avec une citation qui reflète un peu notre état d'esprit hier, et puis on vous laissera deviner son auteur. Bon, cette semaine, c'est très facile à trouver, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Alors je suppose que tous les jeunes entrepreneurs que vous êtes ou que vous serez plus tard, à un moment ou à un autre, auraient bien aimé la sortir à des interlocuteurs pas forcément convaincus par leur projet et surtout pas convaincus du tout par leur âge, comme des magistrats de tribunaux de commerce, par exemple. Que cette fameuse citation, c'est le bien célèbre « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Allez, méditez un peu là-dessus. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne semaine et à lundi prochain.
À la semaine prochaine.